Merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris.
RFI midi.
Et dans une demi-heure, ce sera votre journal, Charlotte Hydrak. On reviendra sur le divorce entre Donald Trump et Elon Musk.
Oui, fin de la bromance, même si le président américain tente aujourd'hui de tempérer au lendemain d'échanges, de pics, d'insultes via réseaux sociaux interposés. Alors, quelles seront les conséquences, notamment sur le plan économique, sachant que Donald Trump a menacé d'annuler les contrats publics avec les entreprises du milliardaire.
Une nouvelle fête sous les bombes à Gaza, c'est l'Aïd aujourd'hui.
Oui, à suivre le témoignage d'une grand-mère palestinienne. Vous l'entendrez, très en colère contre Israël, mais aussi le monde arabe et le monde musulman. Israël sur le front libanais également, avec une opération massive hier dans le sud de Beyrouth. Et puis la riposte, vous allez en parler de Moscou en Ukraine la nuit dernière après les récentes attaques ukrainiennes sur ses aérodromes.
Merci Charlotte Hydrak. On en parle tout de suite dans notre demi-heure européenne.
RFI, l'Europe à midi.
L'armée russe a de nouveau bombardé donc massivement l'Ukraine. La nuit dernière, on déplore 3 morts à Kiev. Et en plus de la capitale, 5 autres régions ont été touchées. Il s'agit, selon les responsables ukrainiens, de l'une des plus importantes attaques aériennes depuis le début de l'invasion russe. Anastasia Bekio, de son côté, l'armée russe, elle, affirme qu'il s'agit d'une réponse aux attaques inédites du week-end dernier qui avaient été menées par des drones en territoire russe.
Oui, sans surprise, la Russie a riposté à cette attaque audacieuse qui a endommagé sa flotte de bombardier. Lors de son récent entretien téléphonique avec Donald Trump, Vladimir Poutine avait prévenu que cette opération ne resterait pas sans réponse. Les autorités ukrainiennes évoquent 407 drones et 44 missiles russes lancés sur 6 régions la nuit dernière. Les 3/4 des missiles et la moitié des drones ont été abattus. Le ministère russe de la Défense a publié un communiqué confirmant que ces attaques de la nuit dernière étaient une réponse, je cite, aux actes terroristes commis par le régime de Kiev. Les responsables russe affirme avoir ciblé des sites militaires. Selon leur version, les frappes auraient touché des ateliers d'assemblage et de réparation de drones, des centres d'entraînement au vol ou encore des entrepôts militaires.
Une version contestée côté ukrainien.
Et en particulier par le médiateur ukrainien pour les droits humains qui écrit sur Telegram que la Russie vise systématiquement les infrastructures civiles. Dmytro Loubinets appelle le monde à prendre des mesures concrètes contre la Russie qui viole, selon lui, les droits humains fondamentaux. Les bombardements de la nuit à Kiev ont tué 3 secouristes qui intervenaient sur les lieux des frappes. 14 personnes ont été blessées. Certaines sont dans un état grave. Des bâtiments résidentiels, la ligne du métro aérien et une station-service ont été endommagés. Plusieurs blessés par ailleurs dans des attaques à Lviv, à Ternopil, dans l'ouest, où l'approvisionnement en eau est perturbé. Des frappes également à Tchernihiv, dans le nord, mais aussi à Poltava, dans le centre. La Russie ne change pas son fusil d'épaule. Depuis la première minute de cette guerre, il frappe les villes et les villages pour détruire la vie, a dénoncé le président Zelensky sur les réseaux sociaux.
Et en l'absence de progrès dans les négociations, les attaques vont se poursuivre.
L'escalade militaire est en cours des deux côtés. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, parle de cette guerre comme d'un conflit existentiel. L'Ukraine, elle, poursuit ses frappes en profondeur sur le territoire russe. L'état-major ukrainien affirme que la nuit dernière, 3 dépôts de carburant ont été touchés sur la base aérienne d'Engels, c'est dans la région de Saratov et c'est à plus de 800 kilomètres de la frontière ukrainienne.
Anastasia Bekio, voilà, de nouvelles attaques sur le sol russe après celles spectaculaires donc menées par des drones le week-end dernier contre plusieurs bases militaires jusqu'en Sibérie. Les autorités ukrainiennes ont parlé de 41 avions détruits, les informations vérifiées disent plutôt une 15aine et sur les réseaux sociaux cette opération inédite fait l'objet d'innombrables fausses informations. Grégory Genevrier, les comptes ukrainiens détournent des images pour surévaluer les dégâts. Et côté russe, on tente de sauver la face et de faire monter la tension.
Oui, quelques heures seulement après l'annonce du raid ukrainien sur des bases russes, des comptes de propagande pro-russe ont inondé les réseaux sociaux avec ce message plutôt inquiétant. La Russie aurait placé ses forces nucléaires en état d'alerte maximale. Des utilisateurs parlent à tort de l'ouverture des silos contenant des missiles stratégiques et du déplacement d'unités mobiles. Un niveau de préparation, je cite, jamais vu depuis la crise des missiles de Cuba.
Alors sur quoi s'appuie concrètement ce récit ?
Eh bien, tout repose sur des prétendus témoignages non sourcés sourcée et sur une vidéo de 49 secondes vue plus de 10 millions de fois cette semaine. Filmée de nuit, on y voit une colonne de lanceurs Yars entourée de véhicules de police sur une autoroute civile. Ces systèmes de missiles balistiques intercontinentaux mobiles sont capables de lancer plusieurs têtes nucléaires avec une portée estimée à 10 000 km, ce qui fait dire à certains que le raid ukrainien pourrait faire basculer le monde.
Sauf que cette vidéo, elle n'a rien à voir avec la traque de drones ukrainiens sur des bases russes.
Non, grâce à une recherche par image inversée, nous avons retrouvé d'où provient exactement cette vidéo. Elle a été diffusée par le ministère russe de la Défense sur Telegram le 27 février 2024. La légende parle de l'arrivée des lanceurs Yars à Alabino, près de Moscou, dans le cadre de la préparation du traditionnel défilé militaire du 9 mai. On était donc dans l'édition 2024, aucun rapport avec le raid ukrainien de dimanche dernier.
Et cette vidéo est loin d'être la seule à être sortie de son contexte.
Absolument, ce type de manipulation se compte par dizaines. Certains comptes pro-ukrainiens ont par exemple diffusé une vidéo censée montrer la destruction d'une usine de composants de missiles près de Moscou. On y voit bien une vaste explosion. Sauf que ces images, vues plusieurs millions de fois, sont anciennes. Elles datent en réalité de 2023 et montrent un navire de guerre russe frappé par des missiles de croisière ukrainiens. C'était lors d'une attaque nocturne en Crimée.
Il faut dire que le contexte actuel est particulièrement propice à la désinformation.
Oui, comme à chaque grande opération militaire désormais, le brouillard de la guerre facilite la diffusion d'images sorties de leur contexte ou générées par intelligence artificielle. À cela s'ajoutent des modes opératoires toujours plus complexes. Des fausses images satellites, difficilement détectables, ont par exemple fait leur apparition en ligne. Une fois devenues virales, ces infox alimentent les tensions, perturbent les perceptions du conflit et invisibilisent les vraies images de la guerre.
Grégory Genevrier, les dessous de l'infox version longue, c'est tout à l'heure à 17h30, temps universel.
RFI Midi, Anne Cantner.
Dans l'actualité européenne également, la division sur l'attitude à avoir vis-à-vis d'Israël. Plusieurs pays demandent à l'Union de revoir son accord d'association avec le gouvernement israélien au regard de ce qui se passe à Gaza. D'autres, comme la France par exemple, disent leur intention de reconnaître prochainement un État palestinien. Et pour la première fois, une université occidentale a décidé de couper tous ses liens avec Israël. C'est le prestigieux Trinity College de Dublin, en Irlande. Tous les partenariats sont suspendus, qu'il s'agisse d'échanges avec des entreprises ou avec des universités israéliennes. Reportage sur le campus de notre correspondante Clémence Pénard.
Jenny Maguire, présidente du syndicat étudiant de Trinity, s'en rappelle, il y a tout juste un an, en mai dernier, des étudiants campaient sur la pelouse durant 5 jours pour dénoncer la guerre à Gaza.
L'année dernière, l'université menaçait d'infliger au syndicat une amende de 250 000 euros pour nos actions de protestation. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis ici, dans une Trinity meilleure, une Trinity libérée de l'apartheid.
Car aujourd'hui, l'université tous ses liens avec Israël, une victoire pour Owen, étudiant.
Il n'y a pas si longtemps, sous la colonisation britannique, nous avons nous aussi vécu une oppression que nous reconnaissons dans ce que subit le peuple palestinien. En Irlande, nous ne pouvons pas rester silencieux face à cela. Peut-être que d'autres le peuvent, mais pas nous. Et nous ferons en sorte que nos voix soient entendues.
Désormais, les autres universités du pays doivent suivre l'exemple, selon Chris Clifford, président de l'Union nationale des étudiants irlandais.
Cette pression exercée de l'intérieur par les étudiants bouscule vraiment les choses. Trinity donne l'élan à d'autres syndicats du pays en prouvant que les étudiants peuvent être la force motrice du changement.
Ainsi, l'université de Trinity entend montrer la voix, tant à l'échelle irlandaise qu'au-delà. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Et à l'opposé de ces décisions, il y a l'Allemagne, très réticente à toute mesure contre Israël. Pour en parler, nous sommes en ligne avec la journaliste Birgit Holzer. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes correspondante de plusieurs médias allemands, vous êtes basée à Paris. Hier encore, Berlin a estimé que reconnaître un État palestinien, ça serait un mauvais signal. Comment est-ce que vous expliquez cette position allemande ?
Alors l'Allemagne, depuis le début de cette guerre, est sur une ligne de crête. Plus peut-être que d'autres gouvernements occidentaux, parce que l'Allemagne se sent forcément plus responsable pour une bonne relation avec Israël et a été très très réticente concernant des critiques de l'action du gouvernement Netanyahou, même si c'est en train de changer dans les mots, dans la rhétorique. Donc le gouvernement, donc le chancelier Merz, mais aussi donc le ministre des Affaires étrangères, commence à critiquer de plus en plus ouvertement ce que fait le gouvernement israélien contre la population palestinienne. Mais dans les faits,
il y a quand même un débat en Allemagne.
Bien sûr, il y a un débat en Allemagne, et même quand vous regardez les sondages, presque deux Allemands sur trois disent que Israël, le gouvernement d'Israël, va beaucoup trop loin, qu'il faut revoir les livraisons d'armes, parce que effectivement l'Allemagne est le deuxième livreur d'armes après les États-Unis pour Israël.
Oui, c'est ça, c'était un des points dont je voulais parler avec vous, parce qu'il n'y a pas seulement les positions diplomatiques. Aujourd'hui, il y a des actions très concrètes. L'Allemagne fournit énormément d'armes à Israël.
Oui, depuis le 7 octobre 2023, à peu près des armes à la hauteur de 500 millions d'euros. Donc ça, c'est beaucoup. Mais justement, Vadé Foul, donc qui est notre ministre des Affaires étrangères, a dit qu'il doit revoir ça. Ça ne veut pas dire, très probablement, il n'y aura pas d'embargo, il n'y aura pas de stop, mais au moins, il signalise qu'il n'y aura pas d'automatisme, qu'il y aura peut-être moins de livraisons d'armes. En tout cas, le gouvernement allemand veut revoir un peu sa politique. C'est encore une fois très, très réticent, mais c'est une forte demande de la population aujourd'hui, de ne pas continuer comme ces derniers mois, comme ces derniers un an et demi.
Est-ce qu'il y a aussi un débat sur les termes employés pour qualifier ce qui se passe à Gaza ? On sait que dans un certain nombre de pays, on se demande s'il faut parler de génocide, assumer ce terme de génocide. Est-ce que c'est un débat qui a lieu aussi en Allemagne ?
Je dirais qu'il n'est pas très fort. Bien sûr, on débat autour de comment qualifier cette, je dirais, action. Le gouvernement allemand a clairement dit qu'il ne parle pas de génocide. Justement, le parallèle est trop vite fait avec le génocide contre les juifs, justement, dont l'Allemagne a été responsable. C'est plutôt un débat sociétal, mais au-delà des mots, je pense que en Allemagne il y a un vrai tournant dans la manière comment on regarde vraiment l'action d'Israël. On était vraiment très longtemps un allié inconditionnel, et ça, je pense, encore une fois, dans ce sondage, 16% des Allemands disent aujourd'hui avoir confiance en Israël. Donc c'est très très peu. Donc je pense que au-delà du débat des mots, il y a un vrai changement du regard qu'on porte sur le gouvernement actuel.
Merci Birgit Holzer d'avoir été en ligne avec nous, correspondante pour plusieurs médias allemands à Paris, journaliste allemande. Merci. Un coup d'œil à la presse européenne où l'on parle beaucoup de la fin de la relation entre Donald Trump et Elon Musk. Les deux pires personnes du monde ont enfin une belle et grande rupture, titre The Guardian, en prévenant. La bromance est peut-être terminée, mais Trump a déjà embrassé ses ennemis par le passé et s'est réconcilié avec eux. Profitez-en pendant que ça dure. Ce divorce, il déclenche un tremblement de terre au sein du mouvement MAGA, nous dit El País. On en parle dans un peu plus d'une demi-heure avec notre invité sur RFI. El País qui revient également sur une réunion politique sous haute tension en Espagne. Les barons du Parti populaire de droite réclament des élections anticipées, mais le Premier ministre Pedro Sanchez les exclut. Elles auront lieu en 2027, comme prévu. Comme chaque semaine, notre Européen de la semaine, le choix de la rédaction, qui nous ramène quelques jours en arrière, samedi dernier.
C'est terminé, c'est fini, aujourd'hui et pour toujours et pour l'éternité, à jamais, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions.
La victoire éclatante du PSG en Ligue des Champions, vous entendez ici les commentateurs de Canal+. Et derrière ce succès tant attendu pour le club, il y a un homme, le sélectionneur Luis Enrique, entraîneur de l'équipe depuis 2 ans. Il a réussi là où beaucoup d'autres avaient échoué avant lui. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour.
Luis Enrique, il avait été un joueur brillant au Real Madrid, au FC Barcelone avant d'être entraîneur. On a beaucoup parlé ici sur RFI de son parcours professionnel. On va s'intéresser aujourd'hui avec vous à l'homme, à cette personnalité unique au caractère bien trempé, il faut le dire.
Oui, Luis Enrique, 55 ans, c'est un physique sec et un caractère entier. Il est droit dans ses bottes, comme le décrit le journaliste Manu Terradillos, correspondant sport de la radio espagnole Onda Cero et collaborateur de RFI.
Il est très passionnel et très viscéral. C'est quelqu'un qui ressent les choses d'une façon très intense. Il dit cela qu'il pense, il change pas sa façon de penser. Donc, comme il a sa réalité des choses et il va la défendre jusqu'à la fin.
Déterminé, avec une mentalité de gagneur, il peut être aussi frontal. Il a des relations parfois houleuses avec les journalistes, comme lors de cette conférence de presse en octobre dernier. Luis Enrique répondait avec aplomb aux critiques et aux interrogations sur l'avenir du PSG en Ligue des Champions.
Jusqu'à preuve du contraire, je pense que nous allons gagner toutes les compétitions. Je le dis comme ça, ouvertement. Je pense que nous allons tout gagner. C'est mon objectif et c'est pour ça que je me lève tous les matins.
Voilà, objectif atteint donc samedi dernier avec cette première victoire pour le PSG en Ligue des Champions.
Oui, c'est le fruit de choix stratégiques audacieux qui ont payé, mais aussi peut-être de la discipline qu'il impose à ses joueurs et qu'il s'impose à lui-même. Obsessionnel, Luis Enrique, sur l'entretien physique notamment. Dominique Sévérac est journaliste au Parisien, il suit le PSG depuis plus de 20 ans.
Il peut être extrêmement dur, très exigeant, lui-même est très, c'est un peu un fou, hein. Il est quand même, il est un peu toqué, il marche pieds nus, sur les pelouses du campus à Poissy, même s'il fait froid. Il fait du gainage toute la journée, il fait du vélo toute la journée, il fait de la musculation toute la journée. Il ne les lâche pas, mais il les lâche pas avec une forme d'humour, c'est-à-dire qu'il fait toujours passer ses idées avec un peu de pommade, un peu de bienveillance, mais, lui, il veut des sportifs qui mangent bien, qui dorment bien, qui sont là, ils sont grassement payés. Mais en revanche, sur le terrain, vous allez vous dépenser, vous allez faire exactement ce que je vous ai demandé.
Et sa manière de travailler aussi, de vouloir tout contrôler. Avec les joueurs, ça passe ou ça casse. Manu Terradillos.
Si tout rentre dans son, je ne vais pas dire son point de vue, mais sa philosophie, il va te soutenir, il va être à mort avec toi et t'améliorer, voilà. Et sinon, la friction, ça va être énorme et très probablement, ce sont des joueurs qui quittent l'équipe, qui arrivent pas. Soit tout avec lui, soit tout et pas dans l'équipe.
Un entraîneur sans concession, donc. Et qu'est-ce qu'on sait de sa vie personnelle?
Alors, c'est un enfant de Gijón, dans le nord de l'Espagne, issu d'un milieu populaire. Il rencontre à la fin d'un match celle qui deviendra sa femme, Elena Cuyel, qui vient d'une famille bourgeoise catalane. Ils forment depuis une trentaine d'années un couple uni. Ils ont 3 enfants ensemble, dont la plus jeune, Shana, meurt tragiquement en 2019 d'un cancer rare à l'âge de 9 ans. Et ce drame, Luis Enrique, après une période en retrait du football, en parle avec beaucoup d'émotion. Dans un documentaire espagnol sur sa vie, diffusé l'automne dernier sur Canal+, voici un extrait.
C'est dans les événements tristes de la vie qu'on apprend le plus. Et tu me diras, la vache, est-ce que je suis chanceux ou malchanceux? J'estime que je suis très chanceux, très chanceux. Mais ta fille est morte à 9 ans pourtant. Oui, mais ma fille a vécu 9 années merveilleuses à nos côtés. Et Shana est vivante. Pas physiquement, mais spirituellement, parce qu'on parle d'elle, on rit, on se souvient.
Luis Enrique a créé une fondation portant le nom de sa fille pour soutenir les familles confrontées au même drame que lui. Avant, il emmenait Shana partout sur les terrains de foot. Aujourd'hui, les jours de match, elle est toujours présente, dit-il, en pensée. Elle le soutient quand il perd et il partage avec elle ses victoires.
Et d'ailleurs, au coup de sifflet final, il a enfilé un t-shirt qui lui rendait hommage samedi dernier. Merci Muriel Paradon.
RFI Midi.
Il est de plus en plus difficile de trouver un logement à un prix abordable en Europe. Dans certains pays, les prix ont explosé. Plus de 200% en Estonie, plus 191% en Hongrie. Et même si, ailleurs, l'augmentation du prix des ventes ou des locations est un peu plus contenue, la tendance est la même, c'est plus cher. Et la Suisse a peut-être une solution, la coopérative. Vivre à plusieurs séduit de plus en plus de personnes et notre correspondant Jérémy Lanche a rencontré certaines d'entre elles.
Alors, bienvenue, du coup.
Nous sommes au Bled, à Lausanne, jeune coopérative de 2 ans à peine, 80 appartements, 200 habitants, dont Samuel Bendaran, président de la coopérative et accessoirement conseiller national socialiste, l'équivalent d'un député en Suisse.
Ici, vous avez notre épicerie, donc vous avez un coup à visiter. C'est l'épicerie qui est liée à l'OSEO, qui est une organisation qui travaille dans le domaine de l'insertion et puis qui vous propose des produits, des sandwichs à manger.
pour l'autre.
Parce que dans une coopérative, les communs sont au moins aussi importants que les logements. Au Bled, il y en a plus d'une vingtaine. Ça va de la buanderie au local bricolage, en passant par la salle de coworking et des salles beaucoup plus grandes.
Donc ici, c'est notre salle de spectacle, salle polyvalente, salle de cinéma. C'est utilisé pour tout plein de choses. On peut faire des fêtes, on peut faire des soirées, on peut faire des spectacles. Il y a des fois du théâtre, de la musique, des concerts. Il y a un programme culturel qui se passe dans cette salle. Elle est entièrement équipée. 150 personnes peuvent venir voir un spectacle dans cette pièce. Et puis aussi, tous les habitants peuvent venir fêter Nouvel An. Et il y a un bar qui est ici, d'ailleurs, vous pouvez voir l'intérieur. Mais le but, c'est aussi d'ouvrir. Par exemple, quand il y a un programme culturel, comme par exemple ce concert qui a lieu dimanche, il est ouvert à tout le monde, pas seulement aux habitants de la coopérative, mais aussi à tout le quartier ou à d'autres personnes qui veulent venir.
Encore plus surprenant, ces 4 chambres d'hôtel, 15 personnes au total peuvent y dormir quasiment gratuitement.
C'est une espèce de chambre d'amis, en fait. C'est-à-dire que si moi, j'ai des amis qui viennent, plutôt que d'avoir un appart plus grand pour avoir une chambre d'amis, en fait, c'est une chambre d'amis commune que les gens peuvent réserver et utiliser.
Des espaces à gogo et des loyers jusqu'à 20% moins cher que sur le marché libre, c'est la promesse des coopératives. Comment ? En refusant la spéculation. Les habitants ne sont pas propriétaires de leur logement, mais achètent des parts sociales, entre plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de francs suisses, selon le modèle. Une somme que les locataires ou les propriétaires récupèrent à leur sortie. Avantage, des fonds propres disponibles immédiatement pour la coopérative. Inconvénient, la plus-value est impossible. Pas très grave, répond Samuel Bendaon.
Les gens qui sont là, ils sont hyper heureux de vivre ici. Si on devait vendre l'appartement pour aller vivre ailleurs, on n'aurait aucun intérêt, même à vendre plus cher, pour acheter finalement quelque chose qui est d'un même niveau de qualité ailleurs, mais pas dans une coopérative, et sans tous les avantages de la coopérative. Donc l'objectif, c'est un bon niveau de vie, à des tarifs acceptables, mais finalement pas pour gagner de l'argent, mais juste pour vivre mieux.
Les coopératives misent aussi sur la mixité. Sur le même palier, on peut trouver un ménage avec des revenus très confortables et une famille à l'aide sociale. À Zurich, les coopératives représentent 18% des logements, mais en moyenne en Suisse, c'est plutôt 4%. Carlos Omaruga le regrette, c'est le président de l'ASLOCA, l'association de défense des locataires.
Les coopératives doivent avoir accès en fait au terrain. Aujourd'hui, c'est un grand défi parce que finalement, les terrains coûtent beaucoup puisqu'on sait que les investisseurs peuvent se dire « moi, je me rattraperai sur des loyers abusifs ». Les coopératives ne peuvent pas le faire. C'est important pour les coopératives que les communes et les cantons aient des droits de préemption qui permettent ensuite d'acheter les terrains pour construire des logements d'utilité publique.
Et l'ASLOCA vient de lancer une initiative populaire contre les loyers abusifs. L'association estime qu'en moyenne, les locataires paient chaque mois 360 francs de plus que ce qu'ils devraient pour leur logement. La faute au système qui permet aux bailleurs d'augmenter le loyer à chaque nouvel entrant dans un appartement. Résultat, des familles qui restent des dizaines d'années dans des logements trop petits et des personnes seules dans des logements devenus trop grands mais qui n'osent pas déménager de peur de payer plus cher pour un deux pièces. Les coopératives sont une des solutions à la crise dans un pays où moins de 40% des Suisses sont propriétaires de leur logement.
Vous écoutez RFI Midi.
Et dans un peu plus d'une demi-heure, ça sera Afrique Midi, à midi et demi, temps universel. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Cantner.
Avec à la une aujourd'hui.
À Kinshasa, une rencontre inédite, d'aucuns diront historique, hier au Palais de la Nation. Le président Félix Tshisekedi a reçu l'un de ses principaux opposants, Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Les deux hommes ne s'étaient quasiment pas parlé depuis. Au Maroc, c'est aujourd'hui qu'est célébrée l'Aïd, la plus grande fête du calendrier musulman, une fête un peu particulière cette année puisque le roi Mohamed VI a appelé ses concitoyens à ne pas sacrifier de moutons pour ménager un cheptel affaibli par la sécheresse et épargner de trop fortes dépenses aux ménages les plus modestes.
À tout à l'heure Nicolas Sieur, on vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure et tout de suite notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture. Aujourd'hui le musicien Richard Schmuckler, fondateur, directeur de la formation Sirba qui réunit 8 musiciens. Leur dernier projet raconte l'histoire de 3 peuples en exil. Il s'appelle Tzuzamen, ça veut dire ensemble en yiddish. Et cet album est un hommage aux juifs, aux arméniens et aux tziganes. Entretien avec Carmen Lunsman.
Richard Schmuckler, bonjour.
Bonjour.
Vous avez découvert le violon à 3 ans. À 11 ans, vous vouliez en faire votre métier. Mais qu'est-ce qui a éveillé votre passion pour la musique des pays d'Europe de l'Est ?
Tout simplement, c'est l'histoire de ma famille, hein, puisque tous mes grands-parents ont émigré en France dans les années 1920 et ont fui les pogroms en Pologne, en Roumanie et en Moldavie. Donc toute cette musique fait partie de ma culture, des réunions de famille quand j'étais tout petit.
Alors en 2003, il y a maintenant plus de 20 ans, vous avez créé votre propre ensemble, le Sirba Octet. Alors que symbolise ce nom Sirba? Et quelle est la particularité, aussi la philosophie de cette formation musicale?
Sirba, c'est tout simplement une danse d'origine roumaine qui se danse en rond et chacun se tient par les épaules. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fraternel et de très humain en fait dans cette danse. Et ça représente aussi le Sirba, qui est un ensemble quelque part sans frontières où on mélange la musique écrite avec de la musique de tradition orale telle Bartok, Mozart, Haydn, Brahms, qui ont pris la musique traditionnelle folklorique et qui les ont classicisées. Et donc nous on fait un petit peu pareil, c'est-à-dire que de musique orale on en fait de la musique écrite debout, à danser sur scène, à casser un peu les codes de la musique classique tout en restant au plus haut niveau artistique.
Alors c'est un programme jubilatoire et poignant à la fois que vous avez concocté pour cet ensemble qui fait donc le tour de la France cette année. Zusammen, ensemble, contre l'oubli des génocides, celui des Juifs, des Arméniens, des Tziganes en particulier. Pourquoi ces peuples-là? Qu'est-ce qui a déclenché en fait votre envie, la nécessité aussi de ce projet, Richard Jonclair?
Mon grand-père était à Auschwitz pendant 4 ans, il a survécu et je me sens aussi un devoir de mémoire. Évidemment, il n'y a pas que les Juifs qui ont vécu un génocide. Artistiquement, j'ai aimé réunir les Roms et les Arméniens. Je trouve la musique Rom absolument incroyable, énergie de vie. Surtout que c'est une musique totalement actuelle, puisque mon contact Rom me dit que toutes les pièces qu'on joue sont chantées par tout son groupe d'enfants qui prend dans la rue. Et en fait, c'est par la musique qui sauve aussi quelque part ces enfants de la misère. Et la musique arménienne, qui est quand même très empreinte de spiritualité, une musique très pudique, d'une sensibilité absolument à fleur de peau, et j'ai vraiment aimé réunir ces trois peuples dans ce programme.
Alors comment racontez-vous ce voyage à travers l'Europe de l'Est? Quelles sont les histoires aussi concrètement que vous traduisez en musique avec tant d'émotion et de virtuosité?
C'est tout simplement l'histoire de la vie, où on va danser sur une musique d'enterrement, pleurer sur une musique de naissance.
Donc vous passez d'un appel déchirant des Roms pour plus de tolérance entre les peuples à une fantaisie loufoque autour d'une courge, en quelques coups d'archet seulement, à l'image donc de ces cultures où l'on passe du rire aux larmes, de la mélancolie à la joie de vivre, Richard Schmucklet.
Oui, c'est une musique qui parle vraiment du cœur à l'âme. Par exemple, il y a une Doina Tchobanouloui de Roumanie qui parle d'un berger et qui imite les sons de la vache, de la chèvre. Toutes ces musiques-là, c'est la vie, c'est le quotidien. C'est un peu comme de la poésie où en fait chacun voyage là où il a envie d'aller. Donc c'est une musique qui est totalement jubilatoire, où on glorifie la vie à travers une immense tristesse joyeuse.
Richard Schmucklet, fondateur et directeur de la formation Sirba, qui sera en concert dans plusieurs villes de France durant les prochaines semaines. Il était au micro de Carmen Lunzmann.
Thank you. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Cette année, le Festival de la Charité sur Loire a rimé avec la série noire. En célébrant les 80 ans de la célèbre collection à travers plusieurs rencontres autour d'auteurs phares comme Dashiell Hammett ou Hervé Prudhon. Des moments forts à retrouver dans un grand reportage enregistré sur place.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.